Buongiorno.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait ?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons. Trois fois.
Cinérama sur Divergence FM.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour, c'est Cinérama, Cinérama du mercredi 20 octobre. Bonjour Martin.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Alors avec un sommaire en trois parties, on va faire comme ça, donc 10 minutes quasiment pour chaque sujet, même si tu ne seras pas très bavard sur le dernier David Fincher, je crois.
Non, alors j'ai préparé une petite, mon avis sur le dernier Fincher, j'espère ne pas avoir été trop long, vous verrez ça tout à l'heure.
Donc de Social Network. Ensuite, nous parlerons du 32e Festival du cinéma méditerranéen, le Cinémètre, qui va débuter ce week-end avec une avant-première ce vendredi, le dernier Pierre Salvadori avec normalement Nathalie Baye, Audrey Tautou qui seront présentes, s'il n'y a pas de nombreux grévistes qui empêcheront les trains d'avancer et les avions de décoller, évidemment. Et puis, nous terminons cette émission en parlant du dernier Pierre Carles, Carlos Pedro. Il a pris un petit pseudo pour son dernier documentaire, Fin de concession, qui ne sort pas ce mercredi, mais qui sortira le mercredi prochain. Mais on a pris de l'avance puisqu'on l'a vu en avant-première hier soir. Et tu auras d'ailleurs des documents extraits.
Oui, alors il y aura beaucoup à dire. Je ne sais pas si on aura le temps de couvrir tout ce qu'il y a à dire sur ce film. On essaiera d'en parler un petit peu en avant-première, puisque, comme tu l'as dit, ça sort mercredi prochain. On en reparlera sans doute la semaine prochaine au moment de sa sortie.
Mais pour l'instant, c'est Facebook et compagnie.
Voilà. Alors depuis Fight Club, sorti en 1999, on peut dire que David Fincher aime surprendre les fans de ses premiers longs métrages, Alien 3, Seven, The Game. Après l'échec cuisant de Fight Club, qui, rappelons-le, a mis quelques années avant d'acquérir son statut de film culte, le réalisateur a changé son fusil d'épaule et s'est orienté vers des projets moins ambitieux et surtout moins sujets à polémique que son adaptation de Chuck Palahniuk. Donc son film suivant, Panic Room, est un travail de commande, un thriller techniquement virtuose mais sans grand intérêt malgré son très grand succès. Avec Zodiac, sorti 5 ans plus tard, il prend d'une certaine façon le contre-pied de Seven et il propose un film dans la veine des polars de Friedkin, donc très documenté, baigné dans un classicisme froid et presque impersonnel. Zodiac marque une rupture dans le style du réalisateur qui abandonne pour l'occasion ses tics de mise en scène, héritées d'une longue pratique du clip musical et publicitaire. Donc plus posé, moins hystérique, Fincher se révèle à l'aise avec ce traitement moins tape à l'œil et ce scénario qui privilégie la reconstitution historique et l'approche quasi documentaire d'un fait divers des années 70. Mais malgré ses qualités indéniables, Zodiac peine un petit peu à conserver l'attention du spectateur sur les presque 2 heures que dure le film. La construction particulière du récit en fait encore une fois un objet plus formel que sensitif. Et des défauts que l'on retrouve d'ailleurs dans un long métrage à la construction assez proche, Les Hommes du Président de Alan G. Pakula, qui s'intéressait aux faits divers du Watergate. Alors pour son film suivant, L'étrange histoire de Benjamin Button, sorti en février 2009, Fincher modifie encore une fois son approche et signe avec ce mélodrame boursouflé l'un des films les plus discutables de sa filmographie. Si l'histoire fantastique de Benjamin Button présente sur le papier un intérêt certain, la déception est à la hauteur de l'attente et bien que les effets spéciaux soient parfaitement maîtrisés, le film s'embourbe un peu trop dans le sentimentalisme hollywoodien et une esthétique de boîte à gâteaux. Alors l'annonce d'un nouveau film aujourd'hui de David Fincher ne déclenche plus la même impatience qu'elle pouvait provoquer par le passé. Je vous ai expliqué pourquoi. Alors avec son dernier long métrage, The Social Network, Fincher s'intéresse à la création du site internet Facebook. Alors pour ceux qui auraient passé les 6 dernières années dans une station météo au fin fond de la Sibérie, sans connexion à Internet, Facebook, c'est un site web qui propose aux internautes de créer un réseau virtuel entre vous et votre famille, vos amis, vos vagues connaissances, des inconnus et des marchands de tapis. Une fois le répertoire de connaissances rempli, il est possible de partager avec eux un certain nombre d'informations essentielles, vos mensurations, vos préférences sexuelles, vos disponibilités, etc. Mais Facebook peut également servir à avertir vos amis de votre emploi du temps, à partager la dernière pensée profonde qui vous a envahi lors de votre séance de méditation quotidienne aux toilettes, ou encore à publier des photos artistiques de votre dernière soirée picole. Bref, Facebook, c'est un outil fascinant et indispensable qui a très rapidement trouvé son public et qui compte aujourd'hui plus de 500 millions de membres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait à peu près un terrien sur 15. 500 millions de membres.
Et avec, sachant qu'une bonne partie de l'Afrique n'a pas Internet. Donc,
oui, ça fait beaucoup d'Occidentaux qui ont des comptes.
Tous ceux qui vivent sur les plateaux d'Amérique du Sud, enfin non plus.
Donc voilà, c'est assez incroyable ce nombre de membres de Facebook, 500 millions. Et avec justement autant de spectateurs potentiels, il était inévitable que cette success story devienne rapidement le sujet d'un film. Et c'est donc entre les mains de David Fincher que ce projet a finalement atterri. Alors dès la première séquence, nous faisons la connaissance de Mark Zuckerberg, un jeune étudiant d'Harvard, qui va devenir le fondateur de Facebook et accessoirement le plus jeune milliardaire au monde. Alors plaqué par sa petite amie, il va en une nuit créer un site qui permet de noter les étudiants d'Harvard en fonction de leur physique. Et quand les autres étudiants découvrent cette incroyable contribution à l'amélioration de l'espèce humaine, le succès est, vous vous en doutez, immédiat. C'est le début d'une trépidante ascension qui va apporter avec elle son lot de victoires, désillusions, trahisons et procès en tout genre. Alors Fincher traite tout ça en mélangeant les genres, teen movie, biopic, business thriller et film de procès. The Social Network est un peu tout ça à la fois. Alors l'ensemble se regarde sans problème, hein. Le scénario distille un suspense insoupçonnable à la vue du sujet choisi. Finalement, ce film fonctionne comme ces films flashback, où l'on sait dès le départ quel est le point d'arrivée, sans qu'on soit forcément au courant du cheminement que vont suivre les personnages pour y parvenir. Donc un peu comme ce film avec les moines en Algérie, on sait dès le départ qu'ils vont mourir à la fin, mais il y a ce suspense insoutenable qui fait qu'on ne voit pas le temps passer et qu'on se laisse prendre par l'action... Donc voilà, non, j'ai pas vu le film de Xavier Beauvois, je suis un peu dur, il paraît que c'est très très bien.
Il a une bonne carrière hein, d'ailleurs, hein. Oui. Il fonctionne très très bien avec le bouche à oreille et de bonnes critiques.
Voilà, mais ça n'a pas grand chose à voir avec notre sujet, sauf que voilà, on sait à l'avance que, eh bien, à la fin de Social Network, Mark Zuckerberg va devenir très très célèbre, que Facebook va être un vrai succès, comme dans le cas d'autres films. C'était également le cas de Fight Club qui nous présentait une séquence... au début du film, qui était la même que la séquence finale, voilà, et tout le film est une sorte de flashback pour expliquer comment on en est arrivé là. Donc voilà, c'est comme ça que se construit The Social Network en mélangeant les points de vue temporels, en mélangeant les différents moments de cette fondation de Facebook. Alors dans le rôle de Mark Zuckerberg, Jesse Eisenberg est assez étonnant. Il parvient à rendre son personnage à la fois touchant et détestable, donc hacker génial, complètement handicapé d'un point de vue social, qui va oublier sa solitude en se créant une communauté illimitée d'amis virtuels et se faisant sacrifier son seul véritable ami et se retrouver plus seul qu'il ne l'était au début de l'histoire. Alors, les autres comédiens sont tous très convaincants et Fincher concentre d'ailleurs son attention sur les personnages plutôt que sur l'objet désincarné auquel il donne vie. Et c'est peut-être là que The Social Network rate un peu le coche. Paradoxalement, Fincher n'a pas voulu, de son propre aveu, faire un film sur Facebook, mais plutôt sur les personnages à l'origine du projet. Sauf que les personnages n'ont finalement pas grand-chose d'original. Ils se débattent avec des problèmes triviaux, avec leurs doutes, leurs ambitions et leurs petites bassesses, comme dans n'importe quel autre biopic. Donc seul le caractère et le destin singulier de Mark Zuckerberg viennent apporter un peu de nouveauté à cette histoire classique de réussite industrielle. Donc voilà, avec un sujet aussi riche que Facebook et par extension les réseaux sociaux sur Internet, Fincher aurait pu en profiter pour questionner cette nouvelle façon de créer du lien social. Il aurait pu sacrifier un peu l'anecdotique pour s'intéresser au phénomène mondial dans ses aspects sociologiques, anthropologiques et éthiques. L'addiction que Facebook déclenche chez beaucoup de jeunes est par exemple à peine abordée au détour d'une réplique rapide. L'isolement et la déconnexion de la réalité sont elles aussi quasiment absentes du récit. Et enfin, les différentes affaires liées à la gestion scandaleuse de la vie privée par les dirigeants du site n'ont pas le droit de citer dans ce film. Donc au final, le dernier Fincher est un film assez fin, qui se laisse agréablement regarder, qui est bien photographié, bien monté, bien interprété, et qui permet de découvrir dans quelles conditions est né ce site tentaculaire. Mais malheureusement, The Social Network reste très consensuel. Il a du mal à se sortir de la sphère anecdotique, des ragots et des ficelles du biopic. Plutôt que de prendre le risque de s'aliéner une partie de son public, donc les utilisateurs de Facebook entre autres, le réalisateur fait le choix de ne s'intéresser que de très loin à son sujet et accouche d'un film qui aurait pu aussi bien être consacré à la fondation d'eBay ou de n'importe quelle start-up à succès. Donc on est devant un pur produit finalement de l'ère Internet, un film accrocheur, bien ficelé, malin, mais qui manque un peu de profondeur et qui s'oubliera un peu trop rapidement.
Et The Social Network est donc projeté au Diagonal en version originale sous-titrée.
Voilà, et dans d'autres cinémas en version française.
Naturellement.
Voilà, sachant qu'il y a des très bons dialogues, à mon avis, enfin, c'est très bien écrit, ça vaut le coup de le voir en version anglaise, même si ça risque d'être un peu rapide pour ceux qui n'aiment pas trop les sous-titres.
Et on le précise, hein, Cinérama n'a pas de page Facebook. En revanche, il m'arrive sur ma page, quand je m'en occupais, parce que je m'en occupe plus trop, mais de faire un petit lien sur le sommaire de Cinérama, et je m'apercevais que les gens cliquaient. Ah. Eh oui. Sinon, nous allons continuer Cinérama, nouvelle formule, une demi-heure. Donc on va essayer de faire vite. Une présentation du Cinémed par Jean-François Bourgeot, rencontré il y a 2 jours, c'est un bavard. Donc ça va durer un petit quart d'heure.
Bonjour Radio Nova. Oui, Jean-François Bourgeot, directeur du Festival du cinéma méditerranéen de Montpellier. On dit Cinémed maintenant depuis quelques années, c'est quand même plus pratique.
Alors, 32e année du Cinémed, alors ça fait pas 32 ans que vous en êtes le directeur, mais ça fait quelques années quand même que vous l'avez pris en main, ce Cinémed. Alors, toujours énormément de films, 250, c'est ça ?
236 exactement, aux dernières nouvelles, et on pense que ceux-là arriveront tous, parce qu'ils sont déjà arrivés pour la plupart. En revanche, les invités arriveront-ils ? Y aura-t-il des trains et des avions et des autocars? Donc voilà, et de l'essence même. Mais disons que oui, moi j'ai pris le festival en main en 2002, c'est ma 9e programmation, hein, donc avec un président hyperactif qui est Henri Talva et avec qui ça fonctionne très bien, et une très bonne équipe qui est bien rodée, qui se rajeunit un petit peu tous les ans par certains éléments un peu à la périphérie. Mais disons que le noyau dur est une équipe qui connaît bien le festival depuis longtemps. Alors on travaille à budget constant depuis une dizaine d'années. Donc le festival, il ne faut pas s'attendre à le voir exploser, devenir monstrueux. Il ne faut pas s'attendre non plus à le voir rétrécir comme une peau de chagrin. Donc je pense que les habitués du Cinémed retrouveront le plaisir qu'ils ont habituellement à cette période-là de l'année, puisqu'on veut que ce soit une fête du cinéma. Et donc effectivement, on arrive à 236 films, donc longs. Les cours, les expés, on a les rétrospectives et les sélections officielles, avec toujours un petit oubli quand même. Les gens ne nous le font pas trop remarquer, mais c'est un oubli qui tient peut-être à la définition même du mot. On n'a pas de moyen métrage.
Un festival, alors c'est des prix, effectivement. Donc il y a une compétition, long métrage, court métrage, film documentaire. Par contre, pour le film expérimental, non. Mais il y a aussi des panoramas. Donc voilà, déjà, ça fait énormément de films. Donc il y a le côté compétition. Mais il y a aussi des invités, effectivement, qui viendront, on l'espère. Et des avant-premières. Donc qui dit avant-première dit aussi équipe de tournage qui vient. Alors ça va commencer très fort avec le film de Salvadori, de Pierre Salvadori.
Oui, qui est un film qu'on attend évidemment tous beaucoup dans la région, un peu plus qu'ailleurs, j'imagine, puisqu'il a été tourné entièrement à 7. Les Sétois se souviennent d'avoir été traumatisés en termes d'embouteillage. Un petit peu à cause de Pierre Salvadori qui battait sa coupe et qui se rendait bien compte, puisqu'en plus de ça, pour ce tournage un peu particulier, urbain, un quai avait totalement été fermé à la circulation. Alors déjà que 7 en plein été, ça fonctionne pas très bien, et là ça a été vraiment terrible. Mais je pense que le résultat vaudra le coup et que les Sétois seront contents de se retrouver et de se reconnaître à travers ce film, qui est une comédie sentimentale très jolie, très élégante, comme tout ce que fait Salvadori. Et effectivement, l'équipe du film est annoncée en double coup d'ailleurs, hein, puisque l'avant-première mondiale du film aura bien lieu effectivement à Cinémed. C'est le film d'ouverture de Cinémed. Quand je dis avant-première mondiale, ça veut dire que c'est la première fois qu'il sera présenté à un public.
Émilie, je ne vis que du bonheur de vous regarder. Vous me croisez parfois et vous ne savez pas que chaque frôlement est une souffrance. Cette lettre ne vaut rien car elle n'est pas signée. En espérant qu'elle vous enivrera peut-être du seul bonheur de vous savoir aimer.
Oh, excusez-moi. Vous pourriez...
Oui, bien sûr.
Merci.
Je t'en prie.
Il faut que t'arrêtes avec papa. Ça fait 4 ans qu'il est parti, il ne reviendra pas.
Je sais que tu voudrais que je rencontre quelqu'un de bien qui m'aime.
Moi-même, quelqu'un de pas bien. J'ai voulu leur donner un peu de force. Lettre anonyme. J'ai recopié et j'ai envoyé.
J'ai reçu une lettre.
Donc on attend évidemment 2000 personnes. Alors je sais que les gens qui seront dans les poulaillers verront très très mal le film, donc il faudra aller le revoir évidemment dès qu'il sort. Je crois qu'il sort en décembre, c'est calé en décembre, la sortie du film. En revanche, ils verront quand même un beau plateau sur scène, puisque Nathalie Baye, Audrey Tautou et Samy Boisgila, qui sont les trois acteurs principaux de cette comédie, seront là. Avec Pierre Salvadori, bien sûr, mais aussi avec une équipe de pâté.
Inutile de se fatiguer. Seuls les meilleurs cochons sont sélectionnés pour faire le pâté ENAF.
Pâté distribution.
Ouais, c'est nul.
Qui nous fait confiance.
Donc ça, c'est bien la soirée d'ouverture. Donc plutôt prestigieuse. Ensuite, y a d'autres avant-premières. Il y a celle de Philippe Leguet, dont on n'entend pas forcément tout le temps parler. C'est le réalisateur de 3-8. Ce sera le lendemain. Pourquoi avoir sélectionné Philippe Leguet? Parce qu'on se demande toujours, mais c'est du cinéma méditerranéen. Philippe Leguet est avant tout quelqu'un de français, pas forcément de la région.
Philippe Leguet, parce que Carmen Maura. C'est-à-dire Carmen Maura, qui est l'invité, on va dire, un petit peu d'honneur et de prestige, et qui nous fait honneur puisqu'elle accepte d'être la marraine du festival. Une marraine pour toujours, c'est-à-dire que le festival n'avait pas de marraine, et bien maintenant il en a une. À 32 ans, un petit coup de blues, peut-être l'envie de se retrouver une maman, enfin je sais pas, ou une fiancée. Donc Carmen Maura sera l'éternelle fiancée du festival. Ça, c'est quelque chose de très important. D'abord parce que c'est aussi une façon pour nous de marquer l'attachement qu'on porte au cinéma espagnol, mais surtout à cette personnalité du cinéma espagnol qui est de plus en plus dans le cinéma français. Et un des témoignages, c'est justement le rôle de boniche espagnole qu'elle joue dans le film de Philippe Leguet. C'est un film qui se passe dans les années 60 à Paris avec Fabrice Luchini, qui est un bourgeois haussmannien. Enfin, j'appelle bourgeois haussmannien, mais un bourgeois qui vit dans un immeuble haussmannien. Donc, et qui découvre qu'au sixième étage, il y a des tas de femmes qui rigolent et qui caquettent et qui sont les bonnes espagnoles. Donc c'est une vision très française et pittoresque sur la façon dont on imaginait les Espagnols à cette époque. C'est un film, je crois, qui a fait beaucoup rire Carmen Maura. Elle le présentera avec Philippe Leguet et nous en parlera.
On a parlé donc des films français qui sont en avant-première. Il y en aura d'autres qui sont de l'espace méditerranéen. Une invitée espagnole. Ensuite, il y a aussi une rétrospective hommage pour un grand réalisateur italien, peut-être un peu oublié de temps en temps ou un peu maudit. C'est Marco Ferreri.
Alors maudit, je dirais pas, mais c'est vrai que souvent, et on ne sait pas pourquoi, des œuvres entières tombent dans une espèce de purgatoire. Il faut des temps. Alors, ce qui est quand même étonnant, c'est que Marco Ferreri est peu sollicité. J'ai l'impression que ces films passent pas tant que ça sur les télés. Alors si, évidemment, quand on a le câble, on trouve toujours des films de tout le monde quand on a le câble. Mais le câble, il faut bien qu'il nourrisse ses tuyaux, hein, donc il y a de tout. Mais c'est vrai qu'on est probablement les premiers à avoir l'idée de faire cette rétrospective importante. Marco Ferreri est mort il n'y a pas si longtemps, hein, en 97, je crois. Donc ça fait 13 ans. Et c'est vrai que son œuvre a été oubliée très vite. Pourtant, c'est une œuvre assez considérable, d'abord en quantité, c'est-à-dire qu'il y a une trentaine de films, c'est pas une petite filmo, quoi. Et puis, c'est quelqu'un qui a travaillé dans trois environnements différents, culturels, l'environnement italien, le français et l'espagnol. Hein, notamment, il a trouvé un scénariste en Espagne qui a beaucoup travaillé avec lui. Et c'est vrai que Marco Ferreri, ça nous paraît très important parce que c'est un cinéaste très singulier, qui a un style très, très, très particulier, qui a une vraie violence, un goût pour la provocation, mais un goût pour un cinéma qui retrouve un petit peu de vitalité politique. Hein, c'est-à-dire que c'est une vision du monde qui est souvent, d'ailleurs, désespérée, assez noire, qui est un cinéma de dénonciation et en même temps qui est dans des formes tout à fait étonnantes. Mais j'aimerais que les jeunes, notamment les jeunes qui ont une pratique du cinéma et qui pensent faire du cinéma ou qui essaient de faire du cinéma, viennent voir cette œuvre. Ça, c'est vraiment intéressant. Et puis dans les autres hommages, j'enchaîne, hein, c'est complètement différent. Là, on a deux femmes bien vivantes, Ronnie Telkabetz et donc Yama Bass, qui incarnent les deux faces d'un même pays, enfin de la Palestine et d'Israël, c'est-à-dire comment dire, hein, les deux faces d'Israël, de l'État d'Israël, c'est-à-dire Yama Bass qui est d'une famille de Nazareth et Ronnie Telkabetz qui est d'une famille juive marocaine qui a immigré en Israël et qui sont toutes les deux vraiment porteuses de personnages au féminin dans la Méditerranée qui s'ouvre, dans cette Méditerranée proche-orientale, qui sont vraiment très très intéressantes. Alors c'est la première fois, là aussi, c'est la première fois qu'un festival va les réunir toutes les deux. Et ça, c'est quelque chose qu'on est très très content de réaliser. Alors Yama Bass, qui est quelqu'un qu'on connaît depuis le début, qui est une habituée du festival, et Ronnie Telkabetz, qu'il a fallu davantage convaincre, mais qui est contente de venir et surtout contente de la rencontrer aussi, pour justement échanger, non pas tant sur, évidemment, ce qui intéresse tout le monde, hein, la question géopolitique, la question de comment faire pour que cette guerre cesse, pour que les Palestiniens retrouvent un peu de leurs droits et de leur espace, et que pour autant l'État juif puisse continuer à exister. Bon, enfin, toute cette question-là, c'est quand même après. Les premières questions que nous, on veut poser à Yam Abbas et à Roni Telkabetz, c'est une réflexion croisée sur la représentation de la femme méditerranéenne dans le cinéma méditerranéen et dans le cinéma en général. Et donc là, c'est intéressant parce qu'elles, elles ont vraiment porté des personnages de femmes très différents. Ça va par exemple pour Yam Abbas de Satin Rouge, d'une femme qui découvre son corps par la danse et qui découvre cette espèce de nouvelle liberté du corps, à un film très joli de Raja Amari qu'on repassera, et puis au Citronnier d'Eran Riklis, qui sera d'ailleurs là pour le présenter, où elle découvre, c'est d'une femme qui découvre le droit et la possibilité de dire non. Non à la spoliation, non à l'injustice. Hein. Donc c'est une femme, c'est une image de résistante. Chez Roni Telkabetz, on va trouver cette espèce de mère déglinguée qui se prostitue avec sa fille dans Or, un film très très beau et très très douloureux. Mais on peut la retrouver plus forte, plus ironique, mais dans une espèce de lassitude et de solitude dans Visite de la fanfare, qui est un film très plus drôle sur un registre un petit peu entre deux, comme ça, tragicomique.
What do you play in the orchestra? You play like in the army music, you know, like.
Mais on trouve Yam Abbas aussi dans le cinéma américain. The Visitor, c'est vraiment un très très beau film. C'est vraiment un rendez-vous aussi important. Alors un rendez-vous féminin, mais féminin pas au sens forcément de séduisant et fragile. Hein. Féminin au sens de fort. Ce sont deux femmes qui essayent de mettre aussi les mains dans le cambouis et elles le font plutôt bien. Yam Abbas a réalisé elle-même deux courts-métrages. Roni Telkabetz avec son frère Kader en a réalisé deux longs. Donc on voit que ce sont des femmes qui non seulement sont des bonnes actrices, mais elles veulent aussi imposer et mettre en scène leur vision du monde. Pour un festival comme le nôtre, ce sont vraiment deux petites merveilles.
On a fait le tour un peu de la Méditerranée, espagnol, français, italien, israélo-palestinien. Qu'est-ce qui reste à dire sur ce cinémètre pour conclure?
Ben, d'abord qu'il y a tous les autres pays, enfin pas tous, parce qu'on a quand même, on fait remonter à la surface du festival 22 pays cette année, 22 ou 23 d'ailleurs, sur 25, hein, donc il y en a toujours deux ou trois qui nous échappent. Par exemple, cette année, je suis très content d'avoir en compétition un film syrien. Je ne dis pas que c'est mon préféré de la compétition, mais c'est un très bon film. Et on l'a pris parce qu'il était bon. Il y a un très, très joli film marocain de Daoud Aoulatsiad, qui lui n'est pas un inconnu. Hein. Il a déjà été en compétition chez nous. Deux films turcs encore, un Cosmos de Rea Erdem, qui poursuit son chemin de manière très, très convaincante. Et puis... Typhoon Persilimoglu avec ça, qui est un film, en fait, le titre français, ça pourrait être La Perruque, quelque chose comme ça, qui est quelque chose de très hiératique. Lui qui va vers. Son cinéma va vraiment vers une épure, quoi. Hein. Il est très, très lent, plan fixe, etc. Comme ça. Bon, donc, ça, c'est un cinéma un peu difficile, mais très, très fort, très, très beau. Et puis voilà, on a dans le panorama beaucoup de choses. On a pas mal de films italiens. En compétition, on a le nouveau Paolo Virzi, qui, à ma connaissance, n'a toujours pas de distributeur. Ce qui est quand même un peu étonnant, avec Stefania Sandrelli qui fait un rôle magnifique de mère un peu indigne et vieillissante. Elle est à tomber, comme d'habitude. Et voilà, on continue. On pense avoir rapporté pas mal de films. Alors, sur les événements particuliers, il faudrait quand même signaler, toujours pareil, notre souci de faire réexister des grands films qui ont été tournés dans la région. Bertrand Billet viendra présenter Merci la vie.
Vous êtes complètement con ?
Bah et vous, qu'est-ce que vous foutez là? Je vous ai pris pour un poulpe.
Pauvre conne. Je viens de me faire corriger par un mec.
L'autre film, c'est le 37 de le matin, version longue, version director's cut de Jean-Jacques Benex. Jean-Jacques Benex sera là pour le présenter. Peut-être rapporter un peu des anecdotes de tournage, mais redire un peu l'importance de ces films-là à l'époque. Hein, les remettre dans un contexte.
Comment tu me trouves?
Elle m'a fait penser à une fleur étrange munie d'antennes translucides et d'un cœur en sky mauve. Et je connaissais pas beaucoup de filles qui pouvaient se fringuer comme ça avec autant d'insouciance.
Et puis, alors là, quelque chose de peut-être moins connu, qui est La campagne de Cicéron, un film qui a été tourné aussi dans notre région, en grande partie, et qui a été tourné par Jacques Davila, quelqu'un, un réalisateur qui est mort, hein, qui a fait que 3 ou 4 films, je crois, et qui est mort... Il y a pas mal de temps déjà, donc c'est un film qui est très étrange, qui est très français. Alors là, qui est très français, qui a une odeur et une couleur méditerranéenne par les lieux de tournage, mais que je considère moi comme très français, et à tel point français que c'était le film préféré d'Éric Rohmer. Il y aura aussi dans les événements le fameux Coffee Project. Le Coffee Project, c'est un ensemble de courts-métrages réalisés par des étudiants palestiniens et israéliens à l'initiative de l'Université de Tel Aviv. Et l'Université de Tel Aviv sera représentée pour présenter ce programme. C'est la première fois que ce programme sort d'Israël. Et c'est intéressant parce que là aussi, ça va très bien avec Yamabas et Roni Delkabetz. C'est encore croiser des regards sur des thèmes communs entre Palestiniens et Israéliens. Voilà, donc, qu'est-ce que je pourrais dire encore ? Très, très beau. Je donne un coup de cœur, là. Un coup de cœur. Je ne sais plus le titre du film, mais c'est un film de Mario Brenta. C'est un documentaire qui est en compétition. Alors, je ne devrais pas le dire parce qu'il est en compétition, mais tant pis, je le dis quand même. Et qui essaie d'imaginer ce que pouvait être la dernière journée du peintre Titien. Donc voilà, c'est un truc superbe. Ça parle de peinture et tout. Alors, le dernier coup de cœur, puisqu'on ne l'a pas évoqué alors qu'il est à l'ouverture, c'est le court-métrage de Serge Avedikian et de Thomas Azuelos à la peinture, donc qui est quelque chose d'un petit peu malin, c'est-à-dire, enfin malin, c'est un film douloureux, qui évoque l'éradication des chiens à Constantinople en 1910. Je rappelle que 1910, c'est juste 5 ans avant 1915, donc c'est pas
non,
la peine.
On va rappeler mais, que mais voilà, 1915 ouais. L'Arménie.
Voilà, voilà, donc il n'y a pas besoin de faire un dessin, mais justement, il s'agit de dessin, c'est magnifique, et c'est... ce film m'a beaucoup, indépendamment de ce qu'il raconte et de son sous-texte, on va dire, ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'il correspond, moi, à des définitions qui me chatouillent souvent du cinéma, c'est-à-dire ce désir qu'aurait pu avoir la peinture de se mettre à bouger. Et là, on est vraiment dans ce style-là, dans ce mode-là de représentation, c'est de la peinture qui bouge. Voilà. Donc c'est magnifique.
Donc ça, ce sera juste avant le film de Salvadori, donc qui fera l'ouverture avec Audrey Tautou, Nathalie Baye et Pierre Salvadori.
Il repassera une fois le court-métrage dans un panorama ou les films région, puisque c'est un film qui a été aidé par la région. Les deux films de soirée d'ouverture, d'ailleurs c'est important de signaler, ont été financièrement directement aidés par la région.
Olé, disent les spectateurs quand il y a l'ambiance dans le quorum, à l'occasion donc de ce 32e cinémètre qui va débuter donc ce vendredi soir. Jean-François Bourgeois en a parlé, des avant-premières. À noter aussi qu'il y aura une émission spéciale en direct de ce quorum à l'occasion de ce cinémètre. Une émission qui se déroulera de 15h à 16h, ce sera mercredi prochain, en plus de Cinérama. Alors on discutera cinéma, on aura notamment des invités, Roni Elkabetz et Yam Abbas. L'une est israélienne, l'autre est palestinienne, et elles discuteront de l'image de la femme en Méditerranée. Ça, ce sera la grosse journée du cinéma de mercredi prochain. Et donc, nous les aurons au micro de Divergence, retransmis sur une trentaine de radios en France aussi, à l'occasion. Et puis, on aura aussi sans doute Pierre Murat, le critique de Télérama, qui est censé présenter le programme Femmes en Méditerranée. Et puis après, on n'a pas fait encore tout le sommaire parce qu'on ne sait pas qui sera là, qui ne sera pas là, notamment à cause des grèves, du manque de gazole et j'en passe. Voilà, donc Cinémed, toutes les infos, c'est cinemed.tm.fr pour avoir le programme, donc 238 films. On reviendra aussi un peu la semaine prochaine sur le programme Une nuit en enfer, notamment. Avec voilà, cette année
Dario Argento. Sur sa deuxième période, il y avait eu déjà Une nuit en enfer Dario Argento il y a quelques années avec ses classiques entre guillemets, avec Suspiria, le syndrome de Stendhal, etc. Et là ils vont se concentrer plus sur ses productions plus récentes, la fin de sa trilogie sur les mers, je sais plus quels autres films sont programmés, mais plus des The Card Player, je crois aussi, qui correspondent à sa production plus récente.
Et puis on pourra pas en parler parce qu'il y a William Carell qui est un grand documentariste qui avait fait notamment Opération Lune, qui se moquait. Il reproduisait une espèce de documentaire fictionnel sur l'arrivée des Américains sur la Lune. Est-ce qu'ils n'auraient pas fabriqué ces images
qui jouaient
à Hollywood,
des théories conspirationnistes, voilà. Comme quoi personne n'aurait jamais marché sur la Lune et Stanley Kubrick aurait réalisé les images qu'on a vues.
Et donc lui sera présent, ce sera lundi. Enfin voilà, tout le programme, allez sur Internet voir pour le Cinémed. Et on passe maintenant à un tout autre sujet. C'est une espèce de trublion de la télévision, à tel point qu'il n'y apparaît plus. C'est Pierre Carle. Alors, Pierre Carle est un documentariste. Il vit à Montpellier. Et son terrain d'action, c'est... D'abord, la télévision, l'image télévisuelle, les médias, leur concentration, et notamment avec ce Fin de concession, qui est son dernier documentaire, le renouvellement de la concession de TF1 qui s'est fait automatiquement. Alors, tu veux peut-être que je rappelle ce que c'est qu'une concession ou comment ça fonctionne, ou toi, tu vas le rappeler ?
Rapidement, en fait, le film est un petit peu, voilà, le dernier documentaire de Pierre Carle est un petit peu vendu sur cette idée qu'il va s'intéresser aux magouilles qui ont fait que TF1 squatte depuis des années cette concession. Enfin, plus précisément que le groupe Bouygues s'est vu attribuer la concession de TF1 à une certaine époque et que depuis il y a eu un hold-up, entre autres par la privatisation de la chaîne, puis par un renouvellement un peu
tacite.
Sans obéir aux règles qui étaient établies à la base avec une concession précaire, enfin qui durait un certain temps, 8 ans je crois que c'était à l'époque.
Avec un cahier des charges, c'est-à-dire qu'effectivement les ondes sont libres, appartiennent au service public, et c'est le cas aussi de Divergence qui a demandé à occuper une fréquence, le 93.9, qui a une concession sur cette fréquence, c'est exactement la même chose. Et on lui dit, vous avez un cahier des charges, proposez quelque chose, on regarde vos programmes, est-ce que vous avez fait ce que vous nous disiez vouloir faire ? Oui, alors on vous redonne ce 93.9.
Voilà, puisque
le 93.9 ne nous appartient pas et ne nous appartiendra jamais.
On part du principe que le hertzien, tout ce qui est les ondes, qui transmettent les informations pour la télé, pour la radio, ça fait partie de l'espace public et que donc ça, ce sont des petits morceaux qui sont concédés à des entreprises privées, à des radios associatives, à des télévisions, etc. Donc Pierre Carle s'intéresse à ça. Au départ, il veut faire un documentaire sur ce hold-up qu'il y a eu sur la concession de TF1. C'est son troisième documentaire donc sur les rapports entre télévision et pouvoir après Pas vu, pas pris et Enfin pris. Son dernier film, c'est un peu particulier parce que... Il va s'intéresser donc à ce grand sujet, mais très vite, il va s'apercevoir qu'il n'y a pas vraiment moyen de faire un documentaire construit sur ce thème avec les protagonistes de cette affaire. Et petit à petit, le documentaire va devenir plus autobiographique et va finalement s'intéresser à la démarche de Pierre Carle plus qu'au sujet de départ. Donc c'est au final un film autant sur la télé que sur le travail de Carle en tant que documentariste. C'est presque un film qui clôt cette trilogie de trois films.
Et du coup, effectivement, comme tu le dis, c'est sur son travail de documentariste. Donc on le voit donner des coups de téléphone, essayant d'avoir des rendez-vous avec ceux qui ont fait que Bouygues a pu avoir cette concession de TF1 toutes ces années. Et puis, y a ceux qu'il arrive à avoir, en se présentant comme Pierre Carle. Il y a ceux qu'il arrive à avoir en empruntant un pseudo, celui de Carlos Pedro, qui est la traduction de Carl Pierre. Et puis, il y a ceux qu'il arrive à avoir en rusant, c'est-à-dire en se faisant passer pour
un caméraman
d'une équipe vénézuélienne qui vient interviewer notamment Étienne Moujotte, puisque... Ce qu'on voit aussi, c'est que ces gens qui ont fait l'histoire de TF1, cette espèce de hold-up, ne sont plus maintenant à TF1. C'est-à-dire que l'équipe a été renouvelée. Bon, Étienne Moujotte se retrouve quand même au Figaro. Le Lait, on ne le voit pas, qui était le PDG de TF1, lui, on ne le voit pas, il n'a pas réussi à l'avoir. Alors, après, il a essayé d'avoir... Il y a même des personnages qui restent tout le temps off, c'est-à-dire qu'il les a tout le temps au téléphone. C'est notamment le cas de Jacques Chancel, qui devient un personnage hors champ à part entière. Enfin, et tout ça est relativement amusant, parce que Jacques Chancel, on ne l'a pas comme ça, visiblement. Il reste toujours gay.
Il y a toujours ce procédé un petit peu qu'on retrouve dans ses précédents films, donc sur la télé, où on le voit faire ses démarches pour obtenir des entretiens, se faire claquer la porte au nez la plupart du temps. Ça, c'est partie intégrante du style Pierre Carle. Ça fait aussi dévier le sujet du film, comme je disais, vers plus un intérêt sur la démarche du documentariste. Moi, j'ai envie de le rapprocher du dernier Michael Moore, capitalisme love story, où pareil, Michael Moore enquêtait sur un sujet un peu intouchable du capitalisme. Il allait trouver des gens, se faisait claquer la porte au nez, et au final, se rabattait sur une sorte de vengeance un peu puérile, un peu drôle aussi. Et c'est un peu la chose qu'on retrouve dans ce nouveau, dans ce fin de concession de Pierre Karl. Il y a vraiment ce désir de faire une enquête approfondie, puis il se rend très vite compte que ça ne va pas être possible, et donc il se rabat sur des procédés qui sont finalement, je sais pas, j'ai envie de rapprocher ça aux Jackass, des gens qui font des sortes de happening, qui va intervenir dans une réunion Soramps ou
François-Olivier Gisberg
voilà, est invité, il va l'interpeller, lui dire ses quatre vérités. Un autre, d'autres petites actions comme ça, un peu potaches sur David Pujadas, entre autres.
Donc, disons qu'il essaie de faire des coups, comme des coups médiatiques, et ça a très bien fonctionné, notamment, oui, avec Pujadas, qui a été nommé laquais du pouvoir.
Voilà, qui a reçu une laisse d'or. Et voilà, cette affaire a fait un peu de bruit dans les médias.
C'était devant le siège de France Télévisions. Après, ils ont maculé son scooter avec une bombe argentée. Enfin, voilà. Ils ont essayé de faire, mais ça a marché. Hein. Il y a eu un vrai buzz là-dessus, puisqu'après, il a été question de Pujadas harcelé, Pujadas même molesté, alors qu'on voit dans les images qu'il n'en est absolument pas question. Tout ça se passe de manière très, très correcte.
Mais c'est vrai que là, on sort complètement de la démarche de documentariste, on sort complètement du journalisme même, puisqu'on on rejoint plus l'activisme politique. On a aussi dans le film tout un retour un peu sur les nombreuses années d'activisme de Pierre Karl, que ce soit avec ses films sur la télé ou avec les diverses initiatives qu'il a prises,
création de journal, Zaléa TV qui se voulait être une télévision libre, qui a demandé d'ailleurs à être sur la TNT à Paris, mais qui n'a jamais eu l'autorisation du CSA. Voilà. Donc ils ont aussi, enfin ils se sont frottés à ces procédures, et finalement on s'aperçoit que la TNT d'ailleurs, sans surprise, appartient à quelques groupes, c'est toujours les mêmes, c'est Lagardère, et puis c'est Bouygues, et puis c'est le groupe public France Télévisions. Alors on va se mettre un peu dans l'ambiance de Pierre Karl en écoutant la bande-annonce, mais là forcément c'est le son à la radio.
Là tu vois, j'ai tué Télédimanche, j'ai tué Canal+, j'ai tué Deniso, j'ai tué De Greff, je pense que là maintenant, Canal+, c'est fini.
Allô, Bernard Tapie ? Oui, bonjour, c'est Pierre Karl, je suis réalisateur de documentaires et je vous appelle parce que je fais un film sur TF1 en ce moment. Est-ce que vous pourriez nous accorder un entretien pour ce film ? C'est pour le cinéma, hein, c'est un film.
Envoyez-moi un petit mot pour dire. Fin de concession, c'est pas mal votre truc. C'est le moment de taper sur TF1, c'est pour ça que je vais vous donner un coup de main.
Est-ce que ça donne envie à des journalistes épais sa conviction de faire une enquête sur les destins parallèles de TF1, privatisé, Bouygues ? Et Nicolas Sarkozy.
Bah écoutez, franchement, nous, enfin.
Parce que cet archive ne vous donne pas envie de faire.
Non, voilà. Franchement, personne n'a jamais évoqué ça.
Oui, Jacques Chancel, c'est à nouveau Pierre Karl, je vous rappelle comme prévu.
Qui va, tu m'as dit ?
Pulvar.
Audrey Pulvar.
Je ne doute pas que votre projet soit intéressant, mais le problème, c'est que ma parole sera beaucoup moins libre maintenant.
Oui, Charles Villeneuve ? Oui, bonjour, Carlos Pedro, je suis journaliste, réalisateur.
Étienne Mougette a mordu à l'hameçon.
On va essayer de l'attendrir avec des petits gâteaux.
La télévision généraliste,
c'est pas le sujet.
Qui incarne la télévision?
C'est pas le sujet.
Qui incarne la télévision généraliste en
J'arrête
France?
J'arrête l'interview là.
C'est une anguille. C'est une anguille, on a payé assez de temps pour sortir l'anguille de l'eau et dire allez, arrête.
TF1 a eu suffisamment de pouvoir pour faire changer la loi. C'était l'avocat Rignot, je crois, à l'époque. Et être reconduit automatiquement jusqu'à aujourd'hui, ce qui est quelque chose d'assez scandaleux, puisque c'était pas ce qui était prévu initialement à la privatisation.
Pas terrible.
Il a Pierre a perdu le fighting spirit.
Il va falloir qu'on se rattrape avec Cavada. Cavada, il faut qu'il. Cavada, je vais le détruire.
C'est pas de ma faute si vous êtes malheureux dans ce cas.
Je vous cite juste une dernière
c'est
fois.
C'est pas de ma faute.
Je vous fais juste une dernière
fois. Je suis pour rien.
Vous allez rentrer là ? Et vous pouvez, vous voyez Bernard Tapie ? Vous pouvez lui remettre cette chose-là, cette enveloppe, hein ? Vous lui dites que c'est la part de Pierre Karl. vous avez fait du mal. Deux, est-ce que ça va continuer, tout ce mal? Bon, c'est pas une question, hein. C'est plutôt une affirmation.
Alors, Pierre-Carl, aura-t-il Bernard Tapie? Va-t-il défoncer Cavada? Vous le saurez en allant voir Fin de Concession. Alors, ce qui est très intéressant, on l'entend d'ailleurs ici, hein, ce qui passe un temps énorme, effectivement, au téléphone, à convaincre, à essayer d'usurper des identités pour éventuellement coincer la personne qu'il interviewe. Alors, il semblerait, parce que Pierre-Carl était présent avec sa productrice hier lors de l'avant-première au Diagonal, ils ne savent pas d'ailleurs s'ils n'auront pas des procès, hein, parce que effectivement Charles Villeneuve se fait avoir pour la deuxième fois, parce qu'il l'avait déjà eu dans son pas vu pas pris. Charles Villeneuve a demandé à ce qu'il n'apparaisse pas dans le documentaire. Pierre-Carl a dit bon, bah, envoyez-moi votre avocat, voilà, ça se passe comme ça.
Ce que Charles Villeneuve a fait, il a envoyé une lettre.
Je pense que c'est le seul pour l'instant qui l'a fait déjà. Et donc ils ne savent pas s'ils n'auront pas des problèmes judiciaires et s'ils ne devront pas recouper ce fin de concession. Donc, à mon avis, il faut aller le voir dans les premières semaines, parce qu'on ne sait jamais comment ça se termine, ces histoires. En tout cas, ce qui est très intéressant avec Pierre-Carl, au-delà du fait qu'il se met aussi un peu en scène, il met en scène ses doutes et pourquoi je fais ça, et est-ce que ça a vraiment du sens, et où est-ce qu'on en est, et ainsi de suite, c'est toutes les archives qu'il retrouve. Mmh. Et notamment, il y a un personnage politique majeur de la République française qui apparaît déjà à cette époque de la concession en 87, c'est Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, évidemment, n'est pas interviewé par Pierre-Carl. Il y a très peu de mots sur Sarkozy, mais il y a quelques images qui ne trompent pas. C'est cette proximité qu'il avait avec le dossier, puisqu'il était l'avocat, carrément, de Bouygues. Donc voilà, dans cette affaire de concession, donc, pour que TF1 soit aux mains de Bouygues, et qu'après, eh bien, on sait bien qu'il est très ami avec Martin Bouygues, qui est le fils de Francis, qui était le président, et ainsi de suite. Enfin, voilà, il y a une espèce de collusion comme ça qu'on voit avec des quelques images comme ça de Nicolas Sarkozy. Et Pierre-Carl en arrive même à dire que ces deux-là fonctionnent, enfin, en fait, ensemble, et que Sarkozy est le produit de TF1. Enfin, c'est assez troublant, et c'est ce que vient dire Arnaud Montebourg en disant TF1 est une télévision de droite, ce qui lui a valu forcément les foudres de Non Spaolini, qui en est le directeur actuel.
Mais il y a vraiment ce talent, j'ai envie de dire, de Pierre-Carl de trouver des archives, compiler des archives aussi qu'on a peut-être déjà vues dans des émissions flashback où on projette des archives de la télé. Mais c'est quand même des images qu'on voit très rarement, entre autres cette séance de coaching par Bernard Tapie. Voilà, c'est pour ça qu'il contacte Bernard Tapie. C'est qu'il a été chargé de coacher l'équipe de Bouygues avant l'audition pour l'obtention justement de cette concession de TF1. Et donc Pierre-Carl nous montre les images du coaching, puis les images de l'audition. Voilà, c'est assez flagrant qu'on est face à une sorte de répétition organisée du mensonge qui va être proposé. Voilà.
Et là encore, collusion. Bernard Tapie, qui après sera ministre socialiste et ainsi de suite. Là, on est vraiment dans quelque chose qui lie les médias au monde politique. Et ce qui était le premier sujet d'ailleurs de Pierre-Carl dans son pas vu pas pris.
Voilà, qui partait d'une vidéo volée
entre François Léotard et Étienne Moujotte.
Qui dévoilait une sorte de lobbying entre hommes politiques et hommes de médias. Et parmi ces archives aussi qui nous déterrent, il y en a qui sont très drôles, il y en a qui sont d'autres plus atterrantes, comme cette petite image de Sarkozy qu'il glisse, Sarkozy qui s'insurge d'une décision de justice qui condamne TF1 à payer des milliards de francs ou des millions de francs.
Des millions de francs pour non-respect de leur cahier des charges, voilà. Parce qu'ils devaient passer de l'opéra à 20h30, hein, ce qu'ils n'ont jamais fait, évidemment.
Oui, ni de la pelote basque en prime time. Et parmi toutes ces archives de la télé que Pierre-Carl compile, il y en a une autre que j'ai retrouvée. Alors c'est un peu plus que ce que vous pourrez voir dans Fin de concession, et je vous laisse écouter ça.
La Commission nationale, instituée pour la campagne électorale en vue de l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes, nous prie de diffuser le communiqué suivant avant l'émission de la liste Région Europe que vous allez voir. La Commission nationale est chargée de veiller à l'enregistrement et la diffusion des émissions de la campagne électorale dans les conditions fixées par la loi et d'assurer le respect de l'égalité entre les différentes listes. Elle ne s'est pas opposée à la diffusion de l'émission de la liste Région Europe que vous allez voir, malgré les attaques personnelles et le caractère injurieux et outrancier des propos tenus. En assurant la diffusion intégrale de cette émission, la Commission a obéi aux exigences de la loi et au principe de la liberté d'expression qui est le fondement de la démocratie.
L'abjection règne. Elle cabache aux mains moites de frousse. Roger Jiquel à la tête de CRS en congé de maladie. Les frères Duhamel, le régime en attend même un troisième pour la Noël. Des petits Jésus de la lèche et honté. Demain, à la tête de RTL, Grimbach pour avoir partagé avec le président des secrets d'alcôve. Zitrone, ce vieux larbin. Moujotte, ce faux derche revenu de toutes les gauches. Bassi ou Cavada, si nul, si prétentieux ou falsificateur que même une radio africaine, même l'empereur Bokassa, hésiterait à les employer. Tous valaient du régime, que dis-je, du fantasme giscardien, ce chef-d'œuvre de transparence et de vide. Moi, j'ai 4 minutes 17 pour m'exprimer, pas plus. On me coupera en plein discours, odieuse censure, mais je continuerai quand même à parler dans vos têtes. Et dans vos cœurs. Eux, vous aurez à les supporter du matin au soir, jusqu'à la nausée, toute l'année durant et l'année d'après. De Gaulle avait au moins des ennemis, Cohn-Bendit ou Bastien Théry, ou de grands serviteurs passionnés. Giscard, lui, n'a que des valets. La basse-cour journalistique d'une France domestiquée, valets, oui, qui touche à la fin du mois, sur vos propres impôts, le salaire exorbitant, toute honte bue de la collaboration. Les nouveaux collabos du pétinisme giscardien ripolliné d'économisme. Valet.
Voilà donc un petit extrait de l'allocution de Jean Edernallier qui s'était présenté à ce moment-là pour la liste Bretagne-Région-Europe. Ça vous donne un peu une idée des petites perles que Pierre Carle a déterrées. Alors voilà, Edernallier est un petit peu... déborde un petit peu sur la suite de son allocution. Même là, il déborde même carrément. Il est un peu persécuté, ce grand penseur. Mmh. Et...
Mais ça, ce sont des images de 79.
Oui, ça, c'est quelque chose qui est passé à la télé de 79.
Et c'est des choses qu'on n'entendra plus, je pense. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce document, on entend des noms qui sont encore dans les médias. Pierre Elkabbach... Voilà, enfin, c'est quelqu'un qu'on peut entendre sur une grande radio qui appartient au groupe Lagardère. Bon, après, il y en a qui ont changé un peu de côté, mais comme on parle de la collusion entre médias et politique, Cavada, maintenant, est un membre...
Député européen,
Il est député européen, ouais. Oui.
Donc ouais. Déjà, à l'époque, il y avait cette histoire de valets du pouvoir, en parlant des grands journalistes vedettes un peu de la télé.
Et on sent que ça fait fantasmer Pierre Carle, quand même, voilà, cette histoire. Hein. C'est ce qu'il aimerait bien qu'il se passe maintenant, c'est-à-dire mettre en cause les grands médias dominants.
Voilà, donc fin de concession, ça sort mercredi prochain. Alors, le film parlera surtout aux connaisseurs de Pierre Carle, à mon avis. Les gens qui vont aller voir ce film en pensant que voilà, le sujet sera traité de façon approfondie, le sujet TF1, la concession, risquent d'être un peu déçus. Par contre, voilà, c'est assez intéressant de voir l'évolution de ce réalisateur à travers ces trois films, Pas vu, pas pris, Enfin pris et Fin de concession. Voilà, un film qui est quand même destiné, à mon avis, aux initiés, d'une certaine façon, du cinéma de Pierre Carle.
Mais après, vous pouvez tenter si vous aimez aussi l'aventure culturelle et intellectuelle. Et à noter aussi que vous pouvez en profiter pour regarder ses autres documentaires, notamment Danger Travail et Rien à foutre, Volem El País, qui eux ont un sujet tout autre. Et La sociologie est un sport de combat aussi sur Pierre Bourdieu. Donc, qui prennent comme sujet plutôt, enfin toujours la société, parce que Pierre Carle met en cause la société ou la met en question. Et cette fois-ci, il met en cause ou en question le travail. Voilà. Notre rapport au travail, est-ce qu'on est obligé de travailler plus pour gagner plus, pour résumer. Donc, fin de concession, on vous le conseille encore, et surtout d'aller le voir dans les premières semaines, puisque...
Avant qu'il soit censuré.
Censuré, peut-être. Voilà, c'est ce qui risque un peu d'arriver. Au moins, il risque d'être coupé, et ce serait dommage de s'en priver. D'autant que nous, on l'a regardé hier avec des bobines qui étaient inversées.
Oui, un sketch.
Ça n'a rien changé. Oui, enfin, c'était aussi agréable. Cinérama va s'achever, mais peut-être avec les événements.
Oui, je te laisse présenter tout ce qu'on pourrait faire.
Il y a une avant-première ce soir à 20h, Dracula, l'Italie qui tremble. C'est un film donc italien sur le tremblement de terre de Dracula et donc le rapport...
Entre le pouvoir, les médias, oui. etc. Et puis les décisions qui ont été prises suite à ce tremblement de terre. Voilà, un portrait au vitriol de Berlusconi... que vous pourrez découvrir dans les salles. Alors je crois qu'il sort mercredi prochain, mais donc ce soir en avant-première au Diagonal.
À 20h. Demain, jeudi 21 octobre, toujours à 20h, Water Makes Money de Leslie Frank et Erdolor Lorenz. Et puis samedi 23 octobre à 18h15, ça c'est dans le cadre du Cinémed, le directeur des ressources humaines de Eran Riklis. Et le réalisateur sera présent. Ensuite, eh bien encore une avant-première, décidément, ça n'arrête pas. Le lundi 25 octobre à 20h, c'est Fix Me de Raed Andoni. Voilà, on en a fini avec les événements, mais celui-ci, tu vas en parler.
C'est voilà, donc juste un dernier, c'est à Utopia, jeudi, donc demain à 20h. Voilà, une projection unique de Madre Tierra, un documentaire, suivi d'un débat animé par le collectif Alimentaire. Donc voilà, c'est à Utopia, à côté de la fac de lettres. C'est demain à 20h.
Eh bien, merci Martin. Alors voilà, une émission de Cinérama qui s'est un peu étendue comme ça, mais ça n'arrivera pas tous les mercredis, hein, puisque normalement, nous avons la portion congrue de 30 minutes.
Mais on avait beaucoup de choses à dire sur Pierre Carl, entre autres.
Effectivement. Alors la semaine prochaine, eh bien, on se retrouve à 12h30 jusqu'à 13h. N'oubliez pas qu'il y aura aussi un direct en... au Cinémède de 15h à 16h. Et puis, je ne sais pas de quoi on parlera. Moi, j'ai vu un documentaire qui sort la semaine prochaine, un excellent documentaire chilien. Donc, j'ai pu interroger le réalisateur. Donc, voilà, je vous en ferai part la semaine prochaine avec un petit montage, une petite interview.
Et quant à moi, je ne sais pas encore, des surprises, plein de surprises. Voilà, des trouvailles.
On remercie Bruno qui était à la technique, ça fait du bien. Et puis à la fin du générique, on retrouvera un extrait d'un des films de Salvadori, Pierre Salvadori, avec qui avait fait notamment l'excellent Les Apprentis. Et puis si on parle des apprentis, c'est parce qu'il fait sa grande avant-première donc au Corum ce vendredi en ouverture du Cinémètre. C'est son dernier film avec Audrey Tautou. Comment s'appelle
Nathalie Baye.
Nathalie Baye, voilà. À noter que la séance sera à 10€. C'est aussi cher que le Gaumont. Mais voilà, c'est très exceptionnel parce qu'ils savent qu'ils attendent beaucoup de monde. Donc ils
c'est
vont
pour
remplir
payer
les caisses.
Pour payer les billets de train.
Absolument. Aussi. Voilà, à la semaine prochaine.
Au revoir.
Je te rappelle qu'on est censé partager le fric. Hey oh! Je te rappelle que ça fait 3 fois que je paye le téléphone et l'électricité.
C'est moi qui ramène la bouffe.
Ah oui, tout ce que tu ramènes, tu le piques.
Et alors?
Et alors? Eh ben, on bouffe que ce qui rentre dans tes poches. Hein? Du gruyère, des steaks surgelés, des sardines en boîte, du poisson pané. On bouffe que des trucs carrés. Dis donc, je te parle de vraie nourriture, moi. Tu comprends? Une laitue, par exemple. Pique une laitue la prochaine fois! T'as compris?
Cinérama.
Je te préviens. Va falloir que tu trouves du fric!
Sur Divergence FM.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Ah non, c'est le 14.
Non, le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers,
Les pompiers, c'est le 18. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.